premier sur l'info, le journal présenté par Cédric Valax.
C'est parti pour le journal, Cédric, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le courrier envoyé par Yves Conroy à tous les candidats déclarés à la présidentielle pour les sensibiliser sur le sujet de l'indemnisation du nucléaire. Vous l'entendrez, il dénonce le foutage de gueule du débat autour de la modification du seuil minimum d'irradiation dans la loi Morin. Yves Conroy qui propose que la Polynésie bénéficie d'une quote-part des retombées économiques générées par l'industrie nucléaire française. Nous reviendrons aussi sur cette visite surprise de la ministre de l'Éducation hier matin au lycée polyvalent du Taonnet. Nicole Sanquer est venue constater sur place une situation dénoncée sur les réseaux sociaux par un élève. Et enfin, nous débuterons notre série de portraits consacrée aux candidats inscrits au concours du meilleur cuisinier de la Polynésie française.
Et on commence donc avec Yves Conroy qui interpelle les candidats à la présidentielle au sujet du nucléaire.
Oui, de Michel Alliot-Marie au futur candidat du PS en passant par Marine Le Pen et bien évidemment par Oscar Temaru, tous les candidats potentiels ont reçu le courrier d'Yves Conroy, sauf Philippe Poutou. Et dans ce courrier, le célèbre dénonciateur de l'affaire des emplois fictifs des présidences Floss dénonce maintenant, et je le cite, le foutage de gueule du débat autour de la notion de seuil minimum d'irradiation dans la loi Morin. Yves Conroy prend en exemple la situation de son épouse décédée d'un cancer et pour laquelle le comité d'indemnisation a reconnu que l'irradiation ne pouvait être considérée comme négligeable en prenant comme lieu de résidence Tahiti entre 1966 et 1974. Pour Yves Conroy, cette reconnaissance revient à dire que l'ensemble des résidents polynésiens ont reçu des doses de rayons ionisants non négligeables. Écoutez, il est au micro d'Antoine Samoyau.
Le CIVEN a considéré que ce taux est non négligeable. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a précisé, le CIVEN a précisé que c'est l'ensemble des résidents polynésiens, je vois pas pourquoi on reparle encore de doses de 0,1, 0,3, alors qu'ils ont publié la dose moyenne, qui est naturellement une dose minimisée à outrance, mais qui est quand même suffisamment grave pour rendre les gens malades aujourd'hui et dans le futur, quoi.
Yves Conroy qui conclut son courrier en proposant que la Polynésie bénéficie d'une quote-part des retombées économiques générées par l'industrie nucléaire française. Une dette calculée en prélevant une taxe sur chaque kilowattheure produit par l'ensemble des centrales nucléaires françaises. Et cela pendant une période équivalente à la durée d'occupation française de l'atoll de Mooloolooa.
Et on poursuit avec cet accident hier matin à Pirae.
Pirae, où un bébé d'un an et demi a été percuté par une voiture qui faisait une marche arrière. Dans sa manœuvre, la conductrice n'a pas vu l'enfant qui se trouvait derrière ses roues. La victime a été placé en observation à l'hôpital de Taonnet. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. La conductrice a été contrôlée et négative à l'alcool.
Et de éducation maintenant avec cette visite surprise de la ministre au lycée polyvalent du Taonnet.
Oui, c'était hier matin. Nicole Sanquer est venue effectuer une petite visite de recadrage de l'équipe de direction. Une visite motivée par un message posté vendredi sur les réseaux sociaux par un élève de deuxième année de BTS électrotechnique. Un élève inquiet de voir que l'atelier de l'établissement destiné à sa classe était inondé. Un message repéré par nos confrères de TNTV. Téléo Mio, c'est son nom, interpellé directement la ministre dans l'espoir de voir la situation s'arranger. Écoutez, il est au micro de Valentine Bluet.
Oui, c'était pas la première fois parce qu'en septembre, avant qu'on parte en stage, nous avons eu aussi quelques problèmes similaires mais moins importants. Et nous avons aussi signalé à la direction et nous avons pu voir qu'ils ont remplacé la gouttière. On est revenu là vendredi et on pensait que rien n'a été fait. Et du coup, je voulais interpeller la ministre de l'Éducation parce que je ne savais pas comment trop m'y prendre pour monter jusqu'à elle. Du coup, je me suis dit que avec grâce à Facebook, je vais pouvoir facilement la contacter, quoi.
Voilà, et après avoir répondu le soir même à Téléo, la ministre était donc hier matin en visite dans l'établissement. Une visite pour évaluer les dégâts et les travaux effectués, mais aussi pour rencontrer la direction. En effet, la ministre a expliqué qu'un point avait été fait récemment avec les établissements sur les travaux à réaliser. Et cet atelier n'y figurait pas.
Surtout vérifier s'il y avait eu des dégâts. Vous savez que ce sont des machines très coûteuses. En plus, c'est vrai qu'au niveau des fuites qu'il y avait, la sécurité des élèves n'était plus garantie. Donc faire un point, un bilan, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puisque je n'étais pas au courant d'une demande de travaux. Voilà, peut-être ce manque de communication qu'on aurait eu entre l'établissement et le ministère.
Voilà, le proviseur du lycée Taonnet, Jimmy Legros, s'est expliqué en affirmant que le chaînon d'évacuation d'eau avait été changé après le premier signalement des élèves, mais ce sont les feuilles des nombreux arbres de l'établissement qui ont bouché les tuyaux d'évacuation. La faute a pas de chance pour le proviseur qui aurait préféré que l'affaire reste en interne.
Moi, Ben, on a parlé un tout petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, nous souhaitons mettre en place, dans le cadre de la vie lycéenne, de la nouvelle représentation, hein, du dialogue avec les lycéens, des dialogues qui nous permettent de résoudre ce problème avant que les choses soient exprimées, je dirais, à l'extérieur. Mais c'est pas très grave, mais nous aurions aimé le rencontrer un peu avant, mais là aussi, il y a eu un concours de circonstances, c'était vendredi après-midi, ils sont partis très vite, on n'a pas eu le temps de le rencontrer, mais c'est vrai qu'il faut qu'on discute avec les élèves pour qu'ils nous avertissent avant, qui est tout à fait possible, voilà, qu'on donne des explications avant.
Voilà, et la ministre a donc fait un petit recadrage en demandant à la direction d'être plus vigilante et de monter plus souvent sur le toit. Finalement, aucun dégât n'est à déplorer sur les machines et les cours ont repris normalement hier matin.
L'éducation toujours avec le Orero qui va peut-être faire son apparition au bac.
Ah oui, en tout cas, c'est le souhait de Nicole Sanquer qui aimerait que l'art déclamatoire soit inscrit en option aux épreuves du baccalauréat. Une occasion pour la ministre de tacler les accusations des élus Tawala qui dénonçaient récemment la mainmise de l'État sur les programmes scolaires du Fénois. Nicole Sanquer affirme avoir le soutien de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, même si elle dit ne pas ignorer que cet arbitrage ne pourra être pris sous le gouvernement Hollande. Nicole Sanquer qui est au micro de Vaïté Oulal-Ipambrin.
La ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'elle est venue ici, a été très impressionnée par les petits orateurs qui l'ont accueillie et elle compte même proposer donc l'art déclamatoire à d'autres académies et elle nous soutient sur ce projet parce que c'est un moyen non seulement de promouvoir la langue mais surtout de mettre en valeur le talent des orateurs et aussi un bel exercice de mémoire auquel l'élève se confronte.
Est-ce que ça va être mis en place avec le gouvernement Hollande ou avec le prochain?
Nous espérons évidemment qu'au niveau des directions générales, il n'y ait pas de trop grands changements. Donc je me déplace à Paris pour essayer déjà d'obtenir des arbitrages. Et puis évidemment, c'est un dossier que je suivrai par la suite.
Ce serait une super bonne idée, ça. Ce serait une super bonne nouvelle en tout cas.
Oui, oui, pardon.
Il vient du Var, du surf au bac Tahiti, pourquoi il n'y aurait pas le Orero, franchement.
Exactement.
Allez, ça va encore gargouiller dans les estomacs, on va parler cuisine.
Oui, c'est le 22 mars que s'est déroulé le concours du meilleur cuisinier de Polynésie. 4 chefs locaux et 7 élèves du lycée hôtelier s'affronteront dans la catégorie chef et espoir. Et afin de vous donner une idée des forces en présence, Valentine Buet a rencontré chacun des candidats. Notre série de portraits démarre donc avec Ninaere Teahe. À seulement 26 ans, il a déjà une solide expérience derrière lui. BTS en poche, il a participé à l'ouverture du restaurant Le Soufflet de Tereva Galopin avant de suivre son cousin qui se lançait dans la pâtisserie. Un cousin loin d'être un inconnu puisqu'il s'agit de Fabrice Mété de Tahiti Gourmandise. À ses côtés, Ninaere a participé également à l'ouverture du restaurant L'Aubergine. Mais le jeune cuisinier a toujours soif d'apprendre et s'est donc lancé un nouveau challenge en intégrant il y a 3 mois la pâtisserie Les Rêves de Lucie. Le candidat au titre de meilleur cuisinier de Polynésie est donc un vrai passionné. Et pourtant, à ses débuts, le jeune cuisinier a dû mettre de côté cette passion pour convaincre ses parents d'entrer au lycée hôtelier.
C'est un peu familial, hein, je dirais. Mes parents savent bien, très bien cuisiner. Ils n'en ont pas fait leur profession, mais ils savent bien cuisiner. Mon cousin a ouvert son resto. Mon grand-père, avant ça, était dans la cuisine aussi. Du coup, je pense que c'est un peu dans les gènes, quoi. Ouais.
C'était une évidence pour toi d'aller faire des études au lycée hôtelier?
C'était voulu, hein. Je voulais déjà intégrer un bac là-bas, mais c'est un peu les parents qui n'ont pas trop voulu. Du coup, je suis resté dans le général. J'ai fait de la mercatique et voilà, ça m'a rattrapé.
Voilà, Ninaere n'a participé à aucun concours. Celui de meilleur cuisinier de Polynésie sera donc une grande première, un challenge de plus à relever pour ce passionné.
C'est un challenge personnel, hein. C'est un peu aussi pour voir son niveau actuellement sur le territoire et voir un peu comment ça marche de chaque côté de la Polynésie, quoi.
Voilà, et même s'il y a 2 mois de l'épreuve, la pression n'est pas trop forte. Le cuisinier avoue tout de même s'être déjà entraîné 3 fois et ça ne fait que commencer, l'occasion de se rendre compte de ses points faibles et de ses points forts.
Franchement, sans prétention, quoi. J'aime la cuisine et voilà, je le fais de mon mieux, quoi. Faut être passionné.
Quels sont tes points faibles, tu penses, pour le concours? Qu'est-ce qui pourrait te faire défaut?
Peut-être l'envie de trop bien faire et de perdre mon temps sur ça, quoi. M'attarder sur des détails surtout, quoi. Je vais aller à l'essentiel.
Voilà, et côté sensibilité culinaire, Ninaere cite volontiers des plats traditionnels français parmi ses favoris. En premier lieu, le cuisinier évoque le bœuf bourguignon et la blanquette de sa grand-mère. Mais il avoue aussi apprécier particulièrement le potiron en sucré et en salé. Si avec ça, je vous ai pas donné faim.
Oh, la blanquette de grand-mère. Ah,
yam, yam.
Je vous l'ai dit. Voilà, ça gargouille. Ça, c'est mal au
bout. Ouais, pareil. Si vous les en faites, hein, chez vous, n'hésitez pas à nous en amener tous les matins.
Oui.
On est preneurs.
Oui, dès 5h, on est ouvert. Et on clôture avec votre personnalité. personnalité de l'année.
Oui, eh bien, c'est Edouard Fritsch, c'est ce qui ressort de notre grand vote lancé le 3 janvier dernier sur notre site internet. Il s'agissait pour nos internautes de choisir parmi 24 personnalités celles qui s'étaient distinguées en 2016. Edouard Fritsch, hein, qui bénéficie des bons indicateurs économiques, hein, que nous ont donné les instituts de statistiques cette année. À lui seul, le président du pays compte 3 fois plus de votes que tous les autres personnalités politiques réunies dans ce vote. Gaston Flosse, par exemple, n'a réuni que 30 voix. Oscar Témoro, 19 votes. Et Marcel Touyani, seulement 2. Les supporters du Tudor Tapora ont donc été très actifs à notre vote. Mais il n'y a pas que des politiques qui ont été plébiscités, puisqu'à quelques clics d'écart, avec 159 votes, on retrouve la créatrice du collectif Oana, Natalia Germain, qui bénéficie elle aussi d'une actualité très récente avec la collecte et la redistribution de jouets aux enfants des quartiers défavorisés pour Noël. Ça a dû jouer également en sa faveur. Et à noter que toutes les personnalités ouvrant dans le social ont reçu de nombreux votes. Et pourtant, c'est notre sportif et champion Michel Bourrez qui termine en 3e position de notre vote avec 9% des voix, soit 102 votes pour lui sur les 1114 exprimés.
Retrouvez l'info en continu Radio 1. Sur radio1.pf.